France Info.
Le rendez-vous politique de France Info chaque matin 8h30. Bienvenue à tous. Bonjour Jeannick Halimi.
Bonjour.
Journaliste au Parisien. Notre invité ce matin, bonjour Valérie Rabault.
Bonjour.
Députée socialiste du Tarn-et-Garonne, vous siégez à la commission des finances à l'Assemblée nationale où vous avez un œil expert sur les questions budgétaires puisque vous étiez en charge du budget à l'Assemblée pendant les trois dernières années du quinquennat Hollande. Le budget de l'État, justement, au cœur des débats cet été, avec un rapport de la Cour des comptes qui a dénoncé son insincérité, un argument repris depuis par le gouvernement pour justifier des coupes budgétaires. C'était encore le cas il y a quelques jours chez nos confrères de France Inter, de la part du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. Écoutez.
Nous allions vers un déficit qui explosait à la fin de cette année. La Cour des comptes l'a dit, un budget considéré comme insincère fait par nos prédécesseurs et la nécessité de redresser la barre qui fait qu'il a fallu trouver 4,5 milliards d'euros d'économies. Si vous ne voulez pas dépenser plus, eh ben, il faut, au bout du compte, dépenser moins et faire des économies budgétaires. Sortons de la spirale de la dépense publique. La France est droguée à la dépense publique avec toujours une seule conséquence, on augmente les impôts. Eh ben, nous n'allons pas le faire et même on va baisser les impôts.
Alors avant d'évoquer la drogue de la dépense publique, un mot de cette question de sincérité. Vous qui aviez le nez dans les comptes, où est la vérité?
Mais quand on lit le rapport de la Cour des comptes, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Tout était dit les années passées. Donc il n'y a rien de nouveau, et d'ailleurs, quand vous le lisez, mais de manière sérieuse, c'est-à-dire pas que les titres du rapport de la Cour des comptes, vous lisez les paragraphes, il n'y a rien de nouveau. Je suis un peu étonnée que M. Castaner tienne ce genre de propos, parce qu'il était lui-même rapporteur spécial sur une partie du budget qui concernait l'emploi.
C'est Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, qui parle de comptes insincères, c'est pas Christophe Castaner qui ne fait que reprendre ses propos.
Quand on questionne Didier Migaud, comme on l'a fait à la Commission des finances, il reconnaît qu'il n'y a rien de nouveau sur les chiffres. Par rapport à ce qui a été annoncé, il y avait une réserve de précaution de 13 milliards d'euros qui peut être utilisée par le gouvernement. Le gouvernement a décidé de faire d'autres choix, d'aller sur la baisse.
C'est une facilité politique d'utiliser ça comme argument pour vous ?
Je pense que d'habitude, quand un nouveau gouvernement arrive, il fait un premier budget pendant l'été, au mois de juillet.
Une loi de finances rectificatives,
qu'on appelle une loi de finances rectificatives.
Rectifier le tir,
s'il souhaite le rectifier.
Du budget en cours.
Le gouvernement n'a pas souhaité le faire. Et donc, il a fait les choses en catimini. Il a baissé les APL d'un côté, supprimé des contrats aidés. Alors là, on est dans une situation inédite, parce que même sous le gouvernement, la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012, il y avait plus de création d'emplois aidés que ce que veut faire le gouvernement
aujourd'hui. Qu'est-ce qui aurait changé si le gouvernement était passé par une loi de finances rectificative?
Il peut changer plein de choses. Il peut changer sa vision des dépenses, sa vision de la fiscalité aussi. C'est aussi un point qui est important. Et là-dessus, on met les choses sur la table. Ça ne se passe pas en catimini, comme ça s'est passé notamment sur les allocations logement.
Justement, on va prendre les choses dans l'ordre. Ces APL baissent de 5 euros pour les allocataires à partir du 1er octobre. C'est une erreur pour vous? C'est une baisse qui avait été envisagée tout de même par le précédent gouvernement, sans entrer dans le détail?
Oui, alors ça avait été envisagé en disant il faut tenir compte du patrimoine des parents.
Enfin, ça a surtout été remis à plus tard, quoi.
Oui, mais non, il y a déjà non, c'est pas vrai. Il y a déjà des choses qui ont été mises en œuvre et qui tiennent compte du patrimoine des parents. Et ça, c'est assez logique. Quand vous faites moins 5 euros par mois pour tout le monde de manière arbitraire, c'est totalement injuste. Et je crois que le président de la République l'a même dit lui-même, en disant ah ben oui, non, finalement, c'est peut-être pas si juste que ça. C'est lui qui l'a dit.
Propos rapportés.
Alors on va re-rapporter les propos du président de la République.
Il faut simplement le
donc,
préciser.
Ce qui montre que c'est quand même une mesure totalement inégalitaire, et je pense qu'il n'a aucun bon sens, ni politique, ni économique.
Vous avez été, Nicolas l'a dit et l'a rappelé, rapporteur donc du budget pendant trois années. Est-ce que le fait de vouloir rééquilibrer les comptes, en tout cas de réduire le déficit de 4,5 milliards, donc trouver des économies de 4,5 milliards d'ici la fin de l'année, est-ce que vous trouvez que ces mesures-là sont justifiées en tant que telles?
Les choix qui ont été faits, encore une fois, sur les coupes de certaines dépenses, que ce soit sur la défense, que ce soit sur les emplois aidés.
Sur les modalités, on a bien compris, mais sur l'orientation qui est de réduire le déficit de 4,5 milliards, est-ce que là, vous êtes d'accord?
L'orientation de réduire le déficit, elle a été engagée depuis 2012.
Et donc vous êtes d'accord?
Mais moi, je suis toujours d'accord pour dire qu'on ne peut pas dépenser éternellement plus que ce qu'on a comme recette. Sinon, on fait porter sur les générations futures une dette. Et une dette, vous savez, c'est un peu comme une vague quand il y a eu le tsunami à Phuket. Vous êtes sûr que la vague va arriver sur vous. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est absolument réduire cette hauteur de la vague. Ça, il n'y a dessus, il n'y a aucun débat. Mais la question qui se pose, c'est la manière dont on s'y prend. Et la manière qui aujourd'hui est proposée, de dire on fait peser sur les personnes qui reçoivent l'allocation logement la baisse du déficit, on supprime des emplois aidés qui pénalisent des entreprises, qui pénalisent des associations, qui pénalisent des communes, ne me paraît pas être la bonne méthode.
Mais qu'auriez-vous fait, vous ?
Alors, ce que nous avions fait les années précédentes, puisqu'il y avait déjà eu des décrets d'avance.
Mais dans l'urgence, qu'auriez-vous fait, vous, socialiste, Nouvelle Gauche ?
Mais, encore une fois, là-dessus, il y a 13 milliards de réserves qui sont... La Cour des comptes l'a écrit. C'est
donc
pas
vous
moi
n'auriez
qui
pas fait d'économie, vous auriez tiré sur les réserves.
Ben, je constate aujourd'hui que dans les coupes qui ont été faites par le gouvernement, ils ont décidé, c'est des coupes qui sont sèches, qui n'ont pas été puisées pour certaines, pas pour toutes, mais pour certaines, sur les réserves qui ont été constituées.
Un point, tiens, qui était un peu technique, le verrou de Bercy, ça a été l'un des débats de l'été. Alors c'est une dérogation du droit qui donne tout pouvoir au ministre de l'économie d'engager des poursuites en cas de fraude fiscale. Vous étiez pour sa suppression ou pour son maintien ?
Je pense qu'il aurait fallu l'aménager.
C'est-à-dire
qu'aujourd'hui, effectivement, le Bercy est en discussion directe avec un contribuable, peut exiger normalement exige qu'il paye ses impôts, et peut décider, lui tout seul, de saisir ou non la justice. C'est ça que ça veut dire, le verrou de Bercy. Et donc, effectivement, si Bercy décide...
Bruno Le Maire, lui, disait que c'était pas un problème, ce verrou.
Bah écoutez, il verra peut-être au fil des années.
Il a dit à votre place.
Et il verra peut-être au fil des années.
Mais l'aménager, ça veut dire quoi ? C'est couper la poire en deux ?
Non, mais
on peut
aussi. Moi, je pense que déjà, il serait intéressant que le Parlement puisse être au courant du nombre de négociations qui ont lieu chaque année.
Donc, négociations, il continuerait d'avoir.
Puisque c'est ça que ça veut dire. Avoir un verrou à Bercy, c'est continuer à avoir des négociations entre l'administration fiscale et le contribuable. Je pense qu'à minima, il faudrait que la commission des finances de nos deux assemblées, du Sénat et de l'Assemblée nationale, puisse connaître le nombre de cas. Alors évidemment, pas avec les noms, on respecte le secret fiscal, mais connaître le nombre de cas et le montant que ça concerne à chaque fois. Et puis, nous serions en mesure de poser des questions au ministère des Finances, de savoir pourquoi, à tel et tel moment, la justice n'a pas été saisie.
Donc, nous serons en mesure de vous poser encore quelques questions. On a un petit peu de temps ensemble encore, Valérie Arbon. On va faire un point sur l'info de ce mardi 15 août à 8h40 avec vous, Léo Chapuis.
Et dans l'actualité, d'abord ce geste fou d'un automobiliste hier soir en Seine-et-Marne. Un homme a délibérément foncé sur une pizzeria, il a fauché les clients, le bilan est assez lourd. Une adolescente de 13 ans a été tuée, 5 personnes sont gravement blessées. La piste terroriste est écartée, ce chauffard de 31 ans serait dépressif, il pourrait avoir consommé des stupéfiants. Il aura fallu 48 heures à Donald Trump pour condamner le meurtre d'une militante antiraciste à Charlottesville. Sous le feu des critiques, le président américain a fini par sortir de l'ambiguïté. Hier soir, lui qui était accusé de complaisance à l'égard de l'extrême droite. Et puis près de 25 000 fidèles sont attendus aujourd'hui à Lourdes pour ce 15 août et le traditionnel pèlerinage de l'Assomption. La sécurité est évidemment renforcée avec des portiques, des barrages anti-voitures bélier et près de 300 policiers, gendarmes, CRS et militaires qui sont déployés.
Info. Valérie Rabault, députée socialiste du Tarn-et-Garonne, est l'invitée politique de France Info. Mardi 15 août, ça veut dire que 100 jours ont passé depuis le 7 mai dernier, l'élection d'Emmanuel Macron. Quel bilan vous tirez-vous de ces 100 premiers jours, votre sentiment ?
Je pense qu'il reste encore beaucoup de flou. C'est-à-dire que...
Et vous êtes de l'école Martine Aubry, estimant que
quand c'est flou,
qu'il y a des loups.
Écoutez, oui, sur ce point-là, je pourrais la rejoindre, peut-être pas sur tout, mais en tout cas sur ce point-là, je pense que le message qui a été donné lors de l'élection présidentielle, c'est qu'il y a une défiance vis-à-vis de la classe politique, c'est pas nouveau, mais enfin, là, on a quand même eu le Front National au deuxième tour de l'élection présidentielle, donc c'est un message très clair. Et je pense que le président de la République et son gouvernement auraient gagné à avoir un discours très clair, à mettre les choses sur la table de manière très claire. Et quand on parle de fiscalité, quand on parle de fiscalité, le diable est dans le détail et donc il faut être très précis. Sur plusieurs points, la CSG va augmenter. C'est ce qu'on nous a annoncé. Bon. Pour un retraité qui est à 1300 ou 1400 euros par mois de revenus, ça va quand même entraîner un impôt supplémentaire à payer, supplémentaire de l'ordre de 285-280 euros de plus par an.
Pour les petites retraites qui ne bénéficient pas de la baisse de cotisation.
Ah ben, il n'y en a aucune qui bénéficie des retraites, donc elles vont payer.
Mais notamment pour ces petites
retraites. Elles vont payer plein pot.
Mais non, il n'aura plus de taxe d'habitation à payer. Donc c'est
clair.
Donc c'est clair.
On leur dit, mais vous verrez, vous allez peut-être être compensé avec de la taxe d'habitation. Là, c'est beaucoup moins clair. On ne connaît pas le montant. On ne connaît pas ce que ça représentera pour chacun. Et donc, je pense qu'il est indispensable en termes de fiscalité qu'on parle de choses précises.
De façon plus générale et plus précise en même temps, si je puis permettre, Valérie Rabault, vous méfiez du fait que les réformes à venir toucheraient principalement les catégories modestes et que donc Emmanuel Macron risque de ne pas avoir entendu les résultats du vote et des législatives et de la présidentielle. C'est ça que vous voulez dire ?
C'est ce que je crains et je pense que ma crainte risque de se vérifier. Parce que, encore une fois, sur la taxe d'habitation, pour l'instant, le modus operandi, on ne le connaît pas.
Baisser les cotisations, ce n'est pas du pouvoir d'achat en plus pour les salariés ?
C'est du pouvoir d'achat pour les salariés. Encore faut-il que ça compense, que cette baisse de cotisation compense exactement la hausse de la CSG.
En gros, c'est clair
est-ce
sur
que
ce qui baisse, c'est pas
clair sur
ce qui monte.
Est-ce que, par exemple, vous, sur votre salaire, vous savez si la hausse de la CSG va être compensée par une baisse de cotisation ? La réponse est non.
Encore la réponse.
Eh bien, vous n'avez pas encore la réponse. Eh bien, c'est bien ça le problème. C'est qu'au bout de 100 jours, personne n'a la réponse. Et ça, ça a créé une sorte de flou qui, à mon avis, n'est pas bénéfique.
Est-ce que ça ne laisse... Pardon, excusez-moi. N'est pas bénéfique, excusez-moi.
Qui n'est pas bénéfique et qui peut même être assez dangereuse.
Mais est-ce que ça ne laisse pas, justement, la place et l'espace au débat parlementaire ?
Mais au débat parlementaire, on a déjà... 100 jours se sont écoulés. C'est vous qui venez de le dire et de le rappeler. En 100 jours, on a largement le temps d'aborder ces questions-là. On a passé l'été...
Attendez, vous avez eu quand même un été extrêmement fourni et chargé,
on a passé
par
l'été
ailleurs.
À aborder... Il y a eu un débat sur les ordonnances, c'est-à-dire signer un chèque en blanc au gouvernement sur la réforme du travail. Et un autre débat qui a concerné la moralisation de la vie publique, qui est un débat important, mais qui concerne les élus, qui concerne moins les Français. Donc je pense que les 100 premiers jours, quand on regarde un peu l'histoire de
sous
la Ve République, je pense qu'il y a d'autres priorités, et la priorité doit être les Français.
Vous avez quand même voté en faveur de la loi sur la moralisation.
Ah mais oui, j'ai voté bien sûr en faveur de la loi sur la moralisation. Tout ce qui va en faveur de plus de moralisation, j'y suis favorable.
Mais je dis que c'est totalement inutile.
Je dis qu'encore une fois, la priorité doit être les Français.
Emmanuel Macron avait été clair, il avait dit « je veux une réforme du travail, ça sera l'un de mes premiers chantiers ». Elle est lancée, il y a eu des consultations. Et pour Sacha Houlier, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, la réforme, dont on connaîtra le détail dans quelques jours, permettra de relancer l'emploi en France. Écoutez-le.
Il y a un ensemble de mesures qui permettront de résorber le chômage. Mmh. Il y a cette loi qui va permettre des meilleurs accords dans l'entreprise, des meilleures indemnités pour les gens qui seront finalement à terme licenciés, c'est pas ce que nous souhaitons. Il y a ce que nous allons conduire pour les cotisations qui seront supprimées, qui permettront que le salaire net des salariés soit augmenté. Il y a la suppression du RSI que nous allons conduire. Ça permettra de réduire le chômage.
Elle est nécessaire, cette réforme, mais est-ce qu'elle s'inscrit pour vous dans la continuité de la loi El Khomri ?
Comme ça vient d'être dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on en connaîtra le détail le 31 août. Donc, même à 100 jours...
Vous en connaissez la philosophie générale.
On en connaît un certain nombre de philosophies, je suis d'accord avec vous là-dessus.
Une certaine forme de clarté dans la campagne là-dessus.
Mais ce qu'il faut vraiment, je pense que pour que le débat politique et la politique puissent regagner ces lettres de noblesse, c'est que les choses soient dites, qu'elles soient concrètes. Moi, je m'inscris dans la lignée de Pierre Mendès France qui disait qu'il fallait faire des choix et les expliquer. Et là...
Ce que fait le gouvernement en disant « on va faire des choix, on va les donner aux syndicats la semaine prochaine, on va vous les présenter le 31 août ».
Oui, mais dans ce cas, je vous dis qu'on a passé 100 jours, plus les quelques jours qui vont s'écouler jusqu'au 31 août, à être dans l'incertitude. Donc là-dessus...
Les consultations, c'était une méthode
mais
qu'a employé François
Hollande. Les consultations sont absolument indispensables. Il y a déjà eu des débats, mais je pense que, encore une fois... passer par les ordonnances et signer un chèque en blanc au gouvernement.
D'accord, mais vous n'allez pas pouvoir vous arrêter là. Est-ce qu'il y a des modalités, tout de même, que nous connaissons un petit peu, des modalités sur lesquelles vous, la nouvelle gauche, allez être totalement opposée ou au contraire extrêmement ouverte, les aspects peut-être protection
Parce qu'il y a des lignes rouges.
Des points qui vous sont favorables et qui vous paraissent bénéfiques pour l'emploi.
Il y a effectivement un point qui est essentiel, c'est que les toutes petites entreprises, on le sait très bien, quand vous avez deux ou trois salariés, si vous voulez prendre un contrat en plus, pour faire un peu plus de chiffre d'affaires dans votre entreprise, parfois il est nécessaire que vous travaillez un peu plus. On le sait. Mais ça, tout ceci peut être négocié à l'intérieur des accords de branche. Il n'y a rien qui suppose que l'accord d'entreprise prenne le pas sur un accord de branche.
Mais rien ne dit dans les ordonnances que l'accord d'entreprise passe au-dessus de l'accord de branche. Même la CFDT le dit, l'accord de branche reste la norme.
Oui, sauf que le périmètre de l'accord de branche se réduit au profit du périmètre de l'accord d'entreprise. Donc en fait, c'est un peu hypocrite de dire on garde la hiérarchie des normes, mais dans le fond, on amaigrit ce qui est à l'intérieur de l'accord de branche.
Valérie Rabault, vous faites partie de la commission des finances à l'Assemblée, mais aussi de la direction collégiale du Parti socialiste à charge de préparer l'avenir, si avenir il y a. Voilà ce que disait l'ancien ministre socialiste Stéphane Le Foll il y a quelques jours.
Il y a un moment maintenant, si le Parti socialiste veut prendre son destin en main, où il va falloir que les militants du Parti socialiste finissent par voter pour savoir ce qu'on est,
qu'est-ce qu'on veut.
Je suis partisan qu'il y ait un congrès, et que ce congrès, ça soit l'année prochaine, en début d'année 2018. Et
un congrès, oui ou non, en début d'année, oui ou non?
Je pense aussi qu'il faut un congrès. Je suis extrêmement favorable à ce que les militants puissent voter sur la ligne, voter sur l'ensemble des aspects du Parti socialiste.
Le calendrier.
Vous savez, moi, je suis première fédérale du Tarn-et-Garonne, donc première secrétaire fédérale. Dans mon conseil fédéral, je fais tout voter. Je pense que donner la parole aux militants, c'est indispensable.
Vous ne craignez pas que ça génère une nouvelle fois de la cacophonie des précédents congrès, il n'est pas sorti de ligne claire.
Je le regrette. Lors du précédent congrès, nous avions avec Yann Gallu, Karine Berger, Alexis Bachelet monté une motion qui s'appelle La Fabrique, la motion D, bon, qui a obtenu 10%, qui visait à clarifier toutes ces lignes-là.
Et avec un PS plus proche de la France Insoumise ou de La République En Marche?
Oui, un PS ne se positionne pas par rapport aux autres, il se positionne par rapport à ses idées, par rapport à lui-même. Moi, je suis sur une ligne social-démocrate, d'autres ont peut-être d'autres visions, mais en tout cas, cette ligne-là, elle peut largement vivre sans se positionner ni par rapport à la France Insoumise, ni par rapport à La République En Marche.
Bon. Valérie Rabault pour ce mot de la fin en ce qui concerne cette partie politique. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Jannick Halimi du Parisien, on se retrouve demain.